d'ouvrir ma bouche avant de laisser toute la place au Seigneur pour faire ce qu'il a à faire, parce qu'il est le berger des brebis. Et ce soir, il est avant tout et premièrement au milieu de nous pour guérir des cœurs brisés. Nous sommes ses brebis. Avant d'être des femmes, nous sommes des créatures de Dieu pour lesquelles le Seigneur a payé le prix fort en donnant son Fils unique. Avant d'être des femmes, nous sommes des créatures de Dieu. Et nous sommes dans ce monde pour un plan, un but précis. Mais avant cela, le Seigneur m'a rappelé une réunion de dames à Gatineau, il y a quelques années, au Canada, au Québec, où il y avait un rassemblement de dames. Et le Seigneur permet ces instants, parce qu'il sait que quand nous sommes entre nous, nous pouvons vraiment lui ouvrir notre cœur, librement, simplement. Et il y avait à cette réunion une femme qui n'avait jamais pu vider son cœur comme ce jour-là. Elle portait un fardeau dans son cœur depuis 18 ans. Et là, cette femme, dans la présence du Seigneur, s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je crois qu'il y a des instants où nous devons laisser notre cœur s'exprimer devant le Seigneur librement. Et ce soir, la présence, la douce présence du Seigneur, elle est là, et le Seigneur veut prendre ses petites brebis dans ses bras et les serrer très fort sur son cœur. Il y en a qui ont une patte cassée. Il y en a qui sont blessés. Il y en a qui sont malades. Et le Seigneur voudrait d'abord s'occuper de celles qui sont blessées. Je suis le berger des brebis, dit le Seigneur. Et mes brebis entendent ma voix. Et mes brebis me connaissent. Et je les connais. Et je te connais. Et je sais tout ce que tu as vécu. Je sais par toutes les souffrances par lesquelles tu es passé, je sais tout de toi. Alors, te dit le Seigneur, ouvre-moi ton cœur. Livre-moi ta vie. Dis-moi tout dans le secret, entre toi et moi. Je suis ton berger, te dit le Seigneur. Inclinons-nous juste quelques instants dans la présence du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu fais une œuvre de restauration, une œuvre de guérison dans un cœur brisé, un ou plusieurs, je ne sais pas, toi tu le sais, Seigneur. Je te laisse toute la place, Seigneur, toute la place pour faire ton œuvre dans ces cœurs brisés. Oh Jésus, il y en a qui pleurent, il y en a qui crient vers toi. Il y en a qui souffrent. Seigneur, tu es le berger des brebis. Alléluia. Merci pour la douceur de ta présence. Il y a du baume en Galade. Il y a du baume pour ton cœur brisé, blessé auprès du Seigneur. Alors qu'il passe près de toi, laisse-le te toucher. Laisse-le réparer cette blessure qui est en toi. Laisse-le faire son œuvre dans ton cœur. Parfois, tu cries vers lui dans le secret de ton cœur et tu as l'impression qu'il ne t'entend pas. Mais ce soir, il te dit, mais si je t'entends, mais justement je t'entends et justement je viens te le dire ce soir, viens te réfugier dans mes bras. Viens me laisser agir dans ta vie. Viens me laisser agir dans ton cœur. Viens me laisser te toucher. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus. Et je sais qu'il y a une dame ici qui a une souffrance, ou quelqu'un ici qui a une souffrance tellement profonde, et cette souffrance, tu as voulu qu'elle guérisse, mais tu n'y es jamais parvenu vraiment, et cette blessure, elle te fait encore mal, tellement mal. Alors, le Seigneur, ce soir, vient poser sa main guérissante, son huile, son baume sur ton cœur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Nous voulons te laisser agir. Guéris tous ceux qui ont besoin d'être guéris dans leur cœur, dans leur âme. Oh, Jésus. Jésus, merveilleux sauveur. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais dire aussi une deuxième pensée qui vient de m'être donnée alors que notre sœur chantait au sujet d'un appel pour le Saint-Service. Le Seigneur sait aujourd'hui qu'il y a dans ce lieu plusieurs femmes qui l'appellent pour un Saint-Service, pour une tâche particulière. Et ma sœur, il voudrait que tu lui obéis. Alors, que tu entendras le message qui va être donné. Prépare ton cœur à répondre à cet appel que le Seigneur t'adresse. Tu l'entends te dire, « Je t'ai appelé depuis longtemps. Je t'attends depuis longtemps. Viens, réponds à mon appel d'amour. Je veux me servir de toi. » Vous savez, comme je disais, nous sommes des créatures de Dieu et le Seigneur nous a créés pour un but précis, pas seulement pour manger, boire et dormir et nous amuser. Si nous sommes sur la terre, c'est parce que le Seigneur a un but et un plan pour notre vie. Et moi, j'ai appris ça au fil des années, que ma vie ne m'appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Parce que dès ma naissance, peut-être que je l'ai déjà dit dans ce lieu, je devais mourir à la naissance, je ne devais pas vivre. Et le Seigneur m'a donné la vie. Ensuite, je suis tombée malade à mourir à l'âge de 27 ans. Et là encore, le Seigneur m'a guéri surnaturellement par sa puissance divine en Afrique en tant que missionnaire. Je devais mourir. Et je sais que si je vis aujourd'hui, c'est un sursis que Dieu m'accorde. Et je ne veux pas lui désobéir. Je ne veux pas m'éloigner de lui. Je sais qu'il peut m'enlever le souffle d'un instant à l'autre. J'ai été au bord de la tombe. Je sais ce que c'est qu'être au bord de la tombe. Je vous en prie. Dieu ne vous a pas créé pour vivre pour vous-même et pas seulement pour vous marier, avoir des enfants et les élever. Aussi pour un but dans ce monde, pour être des instruments, des femmes que Dieu veut utiliser à son service. Il vous a donné des talents. À chacune, il a donné au moins un talent. Alors, il attend que tu le mettes à son service. Que tu arrêtes de vivre pour toi-même et que tu commences à dire « Je ne veux plus vivre cette vie égoïste. » Il n'y a pas de vie plus malheureuse pour une femme que de vivre pour soi-même. Et il n'y a pas de vie plus satisfaisante, plus heureuse, plus merveilleuse que de vivre pour celui qui t'a créé et qui t'a aimé et qui est mort pour toi et qui veut faire de toi un instrument dans ce monde. Qui veut faire de toi une lumière dans ce monde. Alors, je voudrais prendre comme exemple, ça entre bien dans le message que le Seigneur m'a donné pour ce soir, parce que j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu au prophète Jonas. C'est donc les petits prophètes, après les psaumes, après le prophète Amos et avant le prophète Michée. Jonas était un homme appelé par Dieu, un prophète, un homme, un serviteur de Dieu, un prophète. Et vous connaissez certainement l'histoire de Jonas, je pense que vous l'avez lu, j'espère que vous l'avez lu. Il s'agit d'un prophète de Dieu auquel le Seigneur a confié un certain message. Et à l'aide de ce petit prophète de l'Ancien Testament, le Seigneur a des leçons à nous enseigner, et je continuerai dans le même esprit que Samuel ce matin et que Samuel hier soir, parce que le Seigneur m'a donné un message qui s'emboîte bien dans le sien et qui fait suite. D'ailleurs, Samuel, tout à l'heure, m'a ouvert la porte, a commencé à introduire mon message qui s'intitulera « Ne permettons pas à nos épreuves de nous éloigner de Dieu, parce que ça peut arriver. » Et c'est arrivé exactement au prophète Jonas. Il a été éprouvé. C'est un prophète qui devait aller annoncer aux Ninivites, dans une ville de Ninive où la méchanceté était grande. Il devait aller leur annoncer un jugement de Dieu. Et ça ne lui plaisait pas. Et parfois, le Seigneur nous demande des choses qui ne nous plaisent pas. Et là encore, il nous teste pour voir si on va quand même lui obéir. Alors, ce prophète a fait plusieurs erreurs. Et j'aimerais vous montrer les erreurs qu'il a faites et qu'il ne faut pas faire. Les attitudes que le Seigneur ne veut pas que nous ayons quand nous passons par l'épreuve. Et par contre, aussi, celles que le Seigneur veut que nous ayons quand nous passons par l'épreuve. Donc, je développerai plusieurs pensées. Donc, Jonas était destiné à apporter un message de jugement de la part de Dieu. Et il est monté sur un bateau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu au fond du navire, s'est couché, s'est endormi. Et ensuite, la tempête s'est déchaînée. Et les gens du bateau se sont demandé pourquoi cette tempête. Ils allaient sombrer, le bateau allait couler. Alors ils ont dit, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être à cause de ce monsieur Jonas qui est avec nous. Et ils l'ont questionné. Et puis, il a dit, oui, moi je sers je suis hébreu. Et je sers le Dieu du ciel, mais il ne s'est pas vraiment affiché comme envoyé de Dieu. Mais il leur a quand même dit, oui, c'est à cause de moi que la tempête s'est déchaînée. Et ces hommes-là, ils ont dû finalement le jeter, comme vous connaissez, le jeter à la mer. Il a été englouti par un grand poisson. Et ça, c'était l'épreuve de Jonas. C'était le test de Dieu que Dieu faisait passer à Jonas. Et après, vous connaissez l'histoire, comment le poisson ensuite l'a vomi sur le bord de la mer, et comment après il s'est repris, et comment dans le ventre du poisson, il a crié au Seigneur pour que le Seigneur l'aide et que le Seigneur lui pardonne. Il s'est remis en question. Il a eu ensuite la bonne attitude. En premier lieu, il a une mauvaise attitude. Il a désobéi à Dieu. Il voulait fuir loin de la présence de Dieu. Donc, il y a deux attitudes. Une à ne pas avoir et une deuxième à avoir quand on passe par l'épreuve. Je prendrai donc le premier point. Une attitude qu'il ne faut pas avoir quand nous passons par l'épreuve. Et c'est un peu un message prophétique que j'apporte de la part du Seigneur, parce que dans ces temps de la fin, nous serons de plus en plus éprouvés. Et il s'agira de savoir comment réagir.
si nous voulons nous en sortir et si nous voulons honorer Dieu, même dans nos épreuves, au travers de nos épreuves. Il faut que, dans l'épreuve, le monde voit que nous sommes différentes et que nous avons quelque chose et quelqu'un et que nous ne sommes pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. C'est pour cela que la première attitude à ne pas avoir, c'est me faire une mauvaise image du Seigneur. Le Seigneur est un Dieu d'amour, il est vrai, mais ce que nous oublions souvent dans l'épreuve, c'est que le Seigneur est aussi un Dieu de sainteté. Alors quand une épreuve nous arrive, c'est vrai, Dieu nous aime, et par amour, il permet l'épreuve, mais posons-nous la question quand même, dans toute épreuve, Seigneur, qu'as-tu à me dire dans cette épreuve? Ne croyons pas toujours que nous sommes des victimes dans l'épreuve. Parce que sinon, nous allons mal réagir. Dans l'épreuve, nous devons nous souvenir, toujours nous rappeler, bien sûr, que Dieu nous aime, mais qu'il est un Dieu de sainteté et un Dieu de justice. Alors, il est important, dans l'épreuve, de me dire, Seigneur, est-ce que j'ai désobéi quelque part? C'est ce que Jonas s'est quand même posé comme question après. Où ai-je désobéi, Seigneur? Parfois, il n'y a pas de désobéissance. Et alors le Seigneur vous répondra, il vous le dira. Alors à ce moment-là, la paix de Dieu vient dans votre cœur, il n'y a pas de problème. Mais quand même, dans ce monde souillé, impur, où tout est impur, les images sont impures à la télévision, dans les rues, on ne peut pas marcher presque dans la rue sans voir des impuretés. Et nous devons vivre dans ce monde. C'est logique, on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas marcher les yeux fermés, là. Et on entend des choses sales, on voit des choses sales, et nos pensées sont assaillies de choses sales, et nous devons vivre dans la sanctification. Alors, comment faire pour nous en sortir? Parfois, le Seigneur nous montre ce qui le déshonore, ce qui lui déplaît dans l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, nous entendons beaucoup mieux sa voix que quand tout va bien. Nous avons le cœur sensibilisé à sa voix. Et alors, nous pouvons dire, Seigneur, parle, je t'écoute. Je veux savoir si je t'ai offensé. Je veux savoir si je t'ai blessé, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, si je suis allée à un endroit où je ne devais pas aller, si j'ai mal parlé, si j'ai mal agi. Seigneur, parle-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, ce que tu as à me dire. Donc, une attitude à éviter, c'est de penser que Dieu est seulement amour et d'oublier qu'il est aussi sainteté. Parce que dans nos milieux, on a tendance à dire, oui, Dieu est amour, Dieu t'aime, oui, il t'aime, mais quoi que tu fasses, il t'aimera quand même. Non, parce qu'il est un Dieu de sainteté, de justice, et il a ce Dieu-là d'amour qui a donné son Fils pour nous, il a aussi dit, rien d'impur ni de souillé n'entrera dans le ciel, dans mon ciel. Parce que le ciel est un lieu de sainteté, de pureté, et nous servons un Dieu trois fois saint. Il ne faudrait quand même pas l'oublier, parce que la surprise risquerait d'être grande un jour. Devant ce Dieu qui est amour, mais qui est aussi sainteté et justice, il est dit, tout genou fléchira à vous, toute langue confessera, et nous aurons la bouche fermée, nous ne saurons pas quoi dire. Il s'agit de purifier nos vases constamment, constamment devant ce Seigneur de gloire et de sainteté et de pureté. Dans l'épreuve, c'est le meilleur moment de le faire. Alors, voilà Donc, le premier point que je veux souligner, dans l'épreuve, veillez à ne pas me faire une mauvaise image du Seigneur, une image erronée. Ensuite, deuxième point, dans l'épreuve, veillez à ne pas tomber dans la confusion. C'est-à-dire, souvent, l'épreuve est douloureuse. L'épreuve fait mal. Nos enfants se sont mal comportés à notre égard. Nos parents, peut-être, ou des amis, nous ont fait mal. Et nos pensées s'agitent au-dedans de nous. Nos pensées s'agitent. Et une confusion s'installe. Nous perdons de vue notre relation avec le Seigneur. Nous perdons de vue sa présence. Et nous commençons à penser dans toutes les directions, dans tous les sens, comme si le Seigneur n'existait pas, comme si nous étions seuls sur la terre, comme si d'un seul coup on se trouvait abandonné. Seigneur, où es-tu? Tu n'es plus là, je suis dans l'épreuve, Seigneur. Je ne vais pas m'en sortir, où es-tu? Je ne te vois plus, je ne t'entends plus. Où es-tu, Seigneur? Tu m'as abandonné, Seigneur. La confusion s'installe dans notre esprit. Et le Seigneur, alors, doit y remettre de l'ordre. Et ça, c'est important à dire aussi. Aujourd'hui, si tu veux remettre de l'ordre dans tes pensées, s'il y a la confusion dans ton esprit parce que tu ne sais plus où passe le chemin, où le Seigneur veut te conduire, alors la meilleure façon de retrouver ton équilibre, l'équilibre de tes pensées, l'équilibre dans tes sentiments, l'équilibre dans ton cœur, dans ton esprit, c'est de prendre la parole de Dieu. Souvent, nous nous agitons beaucoup et nous oublions l'essentiel. Nous oublions que la parole de Dieu est une lettre d'amour pour nous et que dans cette parole, il nous parle, il nous instruit, il nous conduit, il nous dirige, il nous console, il nous conseille. Cette parole est complète. Il n'y a pas un jour où j'ouvre cette parole et où je ne découvre pas quelque chose que je n'ai jamais vu avant. Où le Seigneur ne me parle pas au travers d'un passage, peut-être dans ce contexte-là, ne répond pas précisément à mon problème, mais le Seigneur l'utilise pour répondre à mon problème. Cette parole est infinie. C'est la parole de Dieu. Alors, quand tu es dans l'épreuve et que tout est confus dans ta pensée, tout est désorienté, prends la parole de Dieu et laisse le Seigneur te rééquilibrer, enlever toute confusion, tout désordre. Et très souvent, dans l'épreuve, le Seigneur nous montre aussi, comme désordre principal, il y a souvent de l'amertume dans le cœur. De l'amertume contre peut-être un frère, une sœur, un pasteur, la maman, le fils, la fille, je ne sais. Souvent, il y a de l'amertume dans le cœur. Souvent, il y a de la rancune et il s'agit de purifier son cœur. Et alors, l'ordre est rétabli, la relation avec le Seigneur est rétablie, et la confusion et le désordre dans ta vie s'en vont. Et tu reçois la paix, tu reçois l'équilibre, et tout cela, le Seigneur te le donne au travers de sa parole. Donc, d'où l'importance, souvent nous passons beaucoup de temps à des futilités. Et nous sommes étonnés, lorsque l'épreuve arrive, de voir combien nous sommes fragilisés parce que nous n'imprégnons pas assez nos pensées de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de notre âme comme la prière est la respiration de notre âme. Entre la prière, qui est la respiration de notre âme, et la parole de Dieu qui est la nourriture, nous devons nous en nourrir et l'appliquer tout.
tous les jours de notre existence. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, il est important de lire la parole de Dieu tous les jours. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Éclaire ta parole par ton esprit. Montre-moi ce que tu as à me dire aujourd'hui. Et quand nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous sommes utiles pour le Seigneur. Le Seigneur peut ensuite nous envoyer plus loin, être une bénédiction. Il peut placer sur notre route une personne qui a besoin justement peut-être du verset que tu as lu ce matin. Peut-être justement de ce que le Seigneur t'a montré ce matin dans ta lecture. Le Seigneur veut remettre de l'ordre dans nos pensées quand nous sommes dans l'épreuve. Alors veillons à ne pas tomber dans la confusion. Et il y a une autre chose à laquelle il faut veiller, et qui est arrivée au prophète Jonas, au chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas, quand il était sur le bateau, la tempête s'est levée. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer dans l'épreuve? Dans l'épreuve, nous pouvons tomber dans un sommeil, une somnolence, une apathie. C'est-à-dire que spirituellement, nous commençons à nous endormir. Au lieu de crier au Seigneur, au lieu de veiller, au lieu de nous ressaisir, au lieu de demander l'aide du Seigneur, on commence à s'endormir. Et alors, quand on s'endort comme ça, on est en danger. Il n'y a pas de plus grand danger que de s'endormir spirituellement, parce qu'à ce moment-là, on commence à désobéir au Seigneur et on est la proie facile pour tomber dans les pièges de l'ennemi de toutes sortes. Toutes sortes. Si on commence à dormir spirituellement, c'est la fin. C'est le commencement de la fin. Et il faut vraiment se ressaisir. Là, voyez, et ça arrive même aux hommes et aux femmes de Dieu. Aujourd'hui, ça peut arriver. Parce que parfois, les hommes et les femmes de Dieu ont des épreuves tellement grandes qu'on arrive pour finir à être un peu étourdi. Et si on ne se ressaisit pas à ce moment-là, eh bien, on risque de tomber dans une sorte de sommeil spirituel. Et alors, c'est un piège. Et dans la désobéissance, le Seigneur ne peut plus nous garder, alors nous pouvons faire des faux pas. Et c'est tellement vite fait. C'est ce que nous voyons arriver à certains hommes de Dieu, malheureusement, certaines femmes de Dieu, qui n'ont pas veillé et qui sont tombées dans des pièges. Jonas, c'était un homme de Dieu, c'était un prophète, il s'est endormi lui aussi. Est-ce qu'il devait dormir, lui, au fond du navire, alors que les autres étaient en péril? Est-ce que c'était son but? Pas du tout. Alors attention, dans l'épreuve, ne nous éloignons pas du Seigneur, jamais. Dans l'épreuve, une autre chose à ne pas, dans laquelle il ne faut pas tomber, ne pas douter de la fidélité de Dieu. Jonas, il a douté de la fidélité de Dieu. C'est pour cela qu'il lui est arrivé tout ce qui lui est arrivé. Si nous doutons de la fidélité de Dieu parce que nous sommes dans l'épreuve, eh bien, nous péchons, nous attristons le cœur du Seigneur. Et c'est une grande souffrance pour le Seigneur que de nous voir douter de sa fidélité. Et là, je peux dire que Samuel et moi, nous sommes passés par une épreuve assez cuisante et difficile depuis 8 ans. Nous avons une fille qui est malade. Nous avons une fille malade depuis 8 ans à la maison. Et ça a été une souffrance indescriptible pour nous, Parce que nous allons partout et le Seigneur se sert de nous pour aider les autres. Et puis nous rentrions à la maison et nous n'avions que les yeux pour pleurer de voir notre fille dans l'état dans lequel elle se trouvait, malade. Et ça a duré, duré. Et puis un jour, il y a la fin du tunnel. Un jour est arrivé où le Seigneur a permis que nous puissions prier pour cette fille qui nous a permis de le faire. Et ça a été la délivrance, ça a été le commencement d'une nouvelle vie qui a commencé. Et je peux dire que nous avons vu la puissance de résurrection du Seigneur dans notre propre maison, dans notre propre famille. Jamais, jamais je n'oublierai cela. Parce que là, le Seigneur a montré sa fidélité. Nous aurions pu commencer à douter pendant ces 8 ans. Jamais rien voir. Le Seigneur nous a testés. Et il vous testera aussi. Il vous testera aussi. Dans ces temps de la fin, le Seigneur teste chacun de nous. Chacune de nous. Donc nous devons être prêts. Et veiller dans l'épreuve à ne pas tomber dans les lamentations. Si facile, quand l'épreuve est douloureuse, quand nos cœurs sont meurtris, saignent de douleur, ne donnons pas une image du Seigneur qui le déshonore, qui puisse faire penser que nous doutons de sa puissance ou de sa fidélité ou de son amour à notre égard. Et pendant ce temps-là, je peux vous dire, pour moi personnellement, je peux dire que la tentation est venue bien des fois, mais le Seigneur m'a fait la grâce de dire non à cette tentation. Et parce que quand vous vous donnez et que vous avez cette souffrance-là à la maison, chaque fois que nous rentrions de voyage et que nous voyons le même scénario agressif, très douloureux, je ne peux pas vous le décrire, mais très très douloureux. C'était infernal, c'était terrible. Eh bien, la tentation vient. Le diable vient te dire, tu vas quand même continuer de servir ce Seigneur-là. Il faut vraiment, vraiment, là, j'ai dit non. Je lui ai répondu chaque fois non et non et non. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai dit que je le servirai jusqu'à la fin de mes jours et je tiens ma parole. Il arrivera quoi que ce soit, j'irai jusqu'au bout avec lui. Je ne me laisserai pas arrêter par cette épreuve. Et même si je dois mourir et pas voir la délivrance, eh bien, je continuerai quand même. Et c'est quand vraiment le Seigneur a eu fini de me tester, et de tester Samuel aussi, lui, il a réagi d'une autre façon. Chacun a réagi d'une autre façon dans une douleur pareille, parce que notre fille, elle était au bord de la tombe, mais c'est allé très, 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 très loin. Et juste au dernier moment, le Seigneur l'a touchée. Et depuis 2 ans, c'est miracle sur miracle ce que nous voyons dans cette personne qui devient une tout à fait autre personne, une nouvelle personne. Extraordinaire. Chaque jour, presque, nous voyons une nouvelle petite chose qui s'améliore et qui la transforme. Et c'est merveilleux de voir la fidélité du Seigneur. Mais le Seigneur a perdu 8 ans de test. Vous savez, c'est long quand on attend. Et vous, je suis sûre que vous passez par vos épreuves aussi. Ne désespérez pas. Ne doutez jamais de la fidélité merveilleuse de votre Seigneur. Jamais. Jamais il ne vous laissera, jamais il ne vous abandonnera, jamais il ne vous abandonnera à votre propre sort. Jamais. Alors, 4 attitudes à avoir dans l'épreuve. S'il ne faut pas avoir l'attitude de se faire une mauvaise image, ne pas oublier la sainteté de Dieu, tomber dans la confusion, tomber dans la somnolence, se mettre à dormir spirituellement, et à tomber dans toutes sortes de pièges, douter de la fidélité de Dieu, le déshonorer par notre incrédulité, nos lamentations. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'épreuve
pour ne pas permettre à nos épreuves de nous éloigner de lui, c'est crier au Seigneur et nous attendre à lui constamment. Et ne jamais se dire, bon, ben maintenant, ça fait déjà tant de temps que j'attends. Il n'a toujours pas répondu, bon, on baisse les bras, on arrête de crier à lui. Ça, c'est un piège. Non, ne nous lassons pas dans l'épreuve de crier au Seigneur, de crier de tout notre être. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois que tu ne me laisseras pas dans cette situation. Seigneur, je crois que tu as une solution. Même si je ne vois rien, je continuerai de croire. C'est comme cela que nous honorons le Seigneur. Et quand nous lui disons, Seigneur, je ne vois rien venir, mais je m'attends quand même à toi. Ça, le Seigneur aime voir quelqu'un lui adresser ses paroles. Je ne vois rien venir, Seigneur, mais je m'attends à toi. Un peu comme le Père qui attendait le Fils prodigue revenir à la maison. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des mamans qui ont des fils prodigues ou des filles prodigues et qui attendent devant le Seigneur. Seigneur, je ne le vois pas venir, mais je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je ne le vois pas encore venir, mais je m'attends quand même à toi. Vous savez, ça c'est une attitude qui honore le Seigneur. Je ne vois pas la situation changer, Seigneur, mais je m'attends quand même à toi. Et au fil des années, nous, au fil des années, dans le secret de notre chambre, nous avons dit, Seigneur, nous ne comprenons pas, mais nous te faisons confiance. Et par la grâce de Dieu, nous ne nous sommes pas rebellés, par la grâce de Dieu. Et je vous assure que dans certaines situations, dans certaines épreuves, il faut beaucoup de grâce du Seigneur. Mais le Seigneur a beaucoup de grâce en réserve pour chacun. Son panier de grâce est rempli, il déborde. Et il y en aura toujours, il est sans fin, sans limite, sa grâce est sans limite, sa miséricorde sans borne. Oh, le Seigneur est bon, il est un bon berger, il a pitié de nous. Nous sommes de petites créatures, de petites filles devant le Seigneur. Et parfois on se sent très petite, mais l'essentiel c'est de toujours laisser notre petite main dans sa forte main de papa, de père, et de dire, emmène-moi papa, je veux toujours te suivre, je veux toujours rester avec toi, je veux toujours t'honorer, je veux te rester fidèle, je veux rester près de toi, je veux te suivre, je ne laisserai pas l'épreuve m'éloigner de toi, je ne la laisserai pas m'éloigner de toi, à aucun prix, quelle que soit l'épreuve. Même si je dois mourir, Seigneur, eh bien, je mourrai, mais avec toi. Et je veux rester dans ta main et je ne laisserai pas aucune épreuve m'éloigner de toi. Ça, c'est une décision que nous devons prendre pour pouvoir tenir dans l'épreuve la plus difficile, la plus pénible, la plus dure. Crions au Seigneur. Attendons-nous à lui. Une autre attitude à avoir dans l'épreuve. C'est celle de dire, Seigneur, tu ne fais pas d'erreur. Seigneur, tu connais tout parfaitement. Tu sais tout ce qui s'est passé. Tu sais le présent tel qu'il est. Et tu connais l'avenir. Et Seigneur, je te fais confiance. Tu connais tout parfaitement et tu ne fais jamais d'erreur. Seigneur, nous nous courbons devant toi, Seigneur, parce que nous savons que parfois nous sommes irrités contre toi. Nous qui sommes des femmes, qui faisons peut-être de la broderie, l'image me vient d'une belle broderie que nous pourrions faire à l'aiguille. Et cette broderie, ce morceau de tissu brodé, on le retourne. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? En général, des fils qui vont dans toutes les directions, qui se croisent. Il n'y a rien de joli à voir un tissu brodé du mauvais côté. Est-ce que c'est beau à voir? C'est pas beau. C'est laid. Eh bien, notre vie souvent ressemble à ce tissu brodé du mauvais côté. Alors le Seigneur, pour nous faire voir son plan, qu'est-ce qu'il fait? Pour nous faire comprendre les choses, le pourquoi des choses, parfois, il prend le tissu de nos vies et il le retourne. Et qu'est-ce que ça fait? Un beau dessin. Parce que ses plans sont parfaits. Si tel fil va dans cette direction, c'est parce qu'il doit aller dans cette direction pour que ça fasse un beau tableau de l'autre côté. Et le Seigneur nous permet parfois que nous voyons le tissu de l'autre côté, son plan et le pourquoi des choses. Parfois, il nous l'explique. Mais il n'est pas obligé de le faire parce qu'il est Seigneur. Et parfois, il demande la confiance, j'allais dire aveugle. Simplement lui dire, Seigneur, je sais que tu fais tout parfaitement. J'y comprends rien, je ne vois rien. Seigneur, si tu veux me donner l'explication, tu me la donneras, mais tu es souverain et je m'abandonne à toi et je te laisse agir comme tu veux dans ma vie. Ça, c'est une forme de consécration qu'il faut avoir dans l'épreuve. Dans l'épreuve, il faut se consacrer au Seigneur tellement qu'on lui donne une page blanche et qu'on signe au bas de la page et qu'on dise au Seigneur, « Seigneur, tu peux la remplir comme tu veux. » C'est ça. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Que je passe par la souffrance ou non. De toute manière, Seigneur, fais comme tu veux. Remplis la page. Moi, je t'ai livré ma vie. Moi, je te laisse faire ton plan dans ma vie. Et s'il y a des choses que je ne comprends pas, je te fais confiance. Tu fais tout parfaitement. Tu connais tout. Et tu ne fais jamais d'erreur. Même si je ne comprends pas. Tu ne te trompes pas. Et vous savez, on est étonné. Parce que le plan de Dieu dans notre vie, c'est comme un puzzle aussi. Un puzzle, vous appelez ça ici, non ? Vous savez, ces jeux où il faut mettre une pièce dans l'autre pour faire un tableau. Casse-tête, casse-tête. C'est plus français, hein, ça, que puzzle. Alors, le casse-tête, ben oui, c'est pareil. Le Seigneur a un morceau par-ci et un morceau par-là, et il rassemble les morceaux, et nous, on voit les morceaux détachés, hein, on les voit éparpillés comme ça, et ils ont n'importe quelle forme, et on se demande pourquoi ils sont là, certains. On a l'impression qu'ils ne vont pas dans l'image qu'on veut faire. Et pourtant, c'est une pièce qu'il faudra ajouter, qui ne nous plaît peut-être pas, mais qui plaît au Seigneur, qui fait partie du plan du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il ne nous faut pas chercher à comprendre tout ce que Dieu fait dans notre vie. Dans les épreuves, nous devons lui faire totalement confiance et dire tu es souverain et tu fais bien ce que tu veux, Seigneur. De toute manière, un jour, j'en aurai l'explication quand je serai auprès de toi. En attendant, merci de me donner la force et la grâce de supporter ce que tu m'appelles à vivre. Dans nos pays occidentaux, nous avons une vie relativement facile. Dans d'autres pays, il y a encore beaucoup plus de souffrance que ce que vous connaissez ici et de ce que nous connaissons en Europe. Vous savez, quand vous voyez en Chine où on enterre les chrétiens vivants, quand vous voyez certains pays musulmans où on fait toutes sortes de choses, de massacres, de barbarie avec les chrétiens, eh bien, nos épreuves sont encore bien faciles à côté de celles-là. Il faut bien en être conscient. Nous sommes gâtés encore. Nous avons des épreuves, c'est vrai, mais encore, elles sont relatives. Relatives par rapport à d'autres. Le jour viendra peut-être où ça changera aussi par ici et par chez nous. Parce que nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur revient bientôt, l'Antéchrist se pointe à la porte. Et en Europe, je peux vous dire qu'on ressent une persécution sous-jacente contre les chrétiens. Déjà, moralement, les chrétiens se sentent persécutés chez nous. parce que le monde entier se met ainsi en place pour une globalisation, une église mondiale avec, qui respecte toute forme d'impiété et de souillure en son sein. Et c'est pour cela que la persécution viendra. Jusqu'où nous serons, nous devrons passer par là. Nous ne le savons pas. Nous serons testés. C'est ce que je veux dire. Il faut nous préparer à être testés par le Seigneur. Des temps difficiles viendront. Il faut qu'on se prépare. Mais le Seigneur sera fidèle. Et c'est pour cela que les petites épreuves, je dis petites, plus ou moins grandes, que nous pouvons avoir, servent à nous préparer pour des temps plus difficiles qui viendront certainement et qui sont à la porte. Alors, ne laissons pas, j'en reviens au titre de mon message, ne permettons pas à nos épreuves, quelles qu'elles soient, de nous éloigner de Dieu. Quel que soit le prix qu'ils nous auront à payer, quelles que soient les souffrances par lesquelles nous serons appelés à passer, ne permettons à aucune d'entre elles de nous éloigner de notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Parce que la vie que nous vivons sur cette terre n'est que pour un peu de temps, un tout petit peu de temps, alors que l'éternité sera longue, très longue, infiniment longue. La comparaison paraît bien maigre. 80 ans sur la terre, 90, et une éternité dans la gloire. Ne vaut-il pas la peine de prendre cette décision et dire au Seigneur, je m'engage devant toi, Seigneur, à aller jusqu'au bout avec toi, et je ne permettrai pas à quelque tentation, à quelque épreuve, de m'arrêter sur ma route. Je suis décidé à aller jusqu'au bout avec toi. C'est un peu comme quand on s'est converti, quand on s'est donné au Seigneur. On a décidé de lui donner notre vie entière, d'aller jusqu'au bout avec lui. Alors maintenant que les temps deviennent difficiles, que les épreuves jalonnent notre route, et à peine une est terminée, il y en a une autre, c'est vrai, partout, dans toutes les familles, eh bien, prenons cette décision. Si le Seigneur est fidèle, ne pouvons-nous pas, nous aussi, l'être à son égard? C'est ce qu'il attend de chacune d'entre nous. Alors nous allons nous incliner dans la prière et j'aimerais qu'on se reconsacre au Seigneur. Nous sommes des femmes, mais avant tout, comme je l'ai dit au début, des créatures de Dieu. Et le Seigneur a un plan pour chacune de nous. Mais ça commence par la consécration totale de notre être, de notre vie, à ce Seigneur merveilleux qui nous aime et qui veut nous aider à marcher dans ses voies, dans la fidélité avec lui, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Seigneur, nous voici devant toi. La chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, nous sommes faibles, mais tu as dit que quand nous sommes faibles, c'est alors que ta puissance peut se manifester au travers de nous. Seigneur, nous voici, me voici. Tu connais ma décision d'aller, de ne pas me laisser arrêter par rien du tout dans ce monde. Aucun obstacle, aucune tentation, aucune épreuve. Seigneur, je t'ai dit jusqu'à la mort, je veux te suivre. Et quelle que soit la mort qui m'est réservée, j'irai jusqu'au bout avec toi. Et si tu nous fais la grâce de mourir pour toi, eh bien Seigneur, je veux encore me trouver là. Tu me donneras la grâce nécessaire pour supporter ces moments-là. Seigneur, merci. Parce que tu nous parles ce soir, tu nous exhortes et nous voulons nous reconsacrer à toi, chacune d'entre nous. Ô Jésus, Jésus, tu as tant fait pour nous. Le Seigneur te dit, j'ai tant fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Que fais-tu pour moi? comme je l'ai dit au début de la réunion, je sais qu'il y en a qui sont appelés à des tâches, à des services pour le Seigneur. Alors, si tu entends l'appel du Seigneur, t'appeler ce soir à te consacrer à son service pour une tâche bien particulière qu'il t'a certainement précisée déjà dans le passé, je te demande vraiment de le faire, de répondre à l'appel du Seigneur. Il t'appelle ce soir, il te dit, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur, livre-moi toute ta personne, que je puisse me glorifier au travers de toi. Je t'ai donné des talents, donne-les-moi, mets-les à ma disposition, te dit le Seigneur. Levons-nous dans la présence du Seigneur et passons un petit instant dans la prière, dans la consécration devant lui. Levons-nous, tout le monde, chacune. Je crois que le Seigneur nous a parlé et que maintenant, il attend une réponse de notre part. Il attend une réponse. Seigneur, tu as donné beaucoup de talents ici. Beaucoup de talents ici. Et il y en a qui dorment. Seigneur, tu veux que ces personnes se reconsacrent à toi et qu'elles soient décidées à aller jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer avec toi, Seigneur, et que rien ne les arrête. Jésus, 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 Jésus. Je t'ai donné le talent de parler et chaque fois tu mets un frein à ta bouche par incrédulité. Chaque fois, tu dis, je ne sais pas parler. Et si moi je te qualifie, te dit le Seigneur, et si moi je te qualifie, ne doute pas de mon appel. Ne doute pas de mon appel. Et le Seigneur adresse une parole plus particulière à quelqu'un, à une jeune fille, à laquelle il dit, tu cherches ta voie à travers la jungle de ce monde. Et tu t'es égaré à bien des reprises. Cela t'a causé bien des peines, bien des déceptions, même des souffrances. Et aujourd'hui, tu te trouves devant moi. Je t'appelle, je t'aime, et je veux te sauver, je veux te transformer, je veux te libérer de toutes ces entraves, de tous ces passés si douloureux qui te font souffrir. Oh, viens à moi, je t'appelle. Je t'appelle, je frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-moi et je te transformerai et je te changerai et je changerai aussi tes circonstances. Alléluia, Seigneur. Jésus, Jésus. Il y a une dame plus âgée que le Seigneur a appelée à un ministère d'intercession, à passer du temps dans la prière. Le Seigneur te met des fardeaux souvent sur le cœur pour lesquels il voudrait que tu pries, que tu jeûnes et que tu te lèves la nuit pour intercéder auprès du trône de la grâce. Il a besoin de toi, il t'a appelé, mais il voudrait plus de fidélité de ta part. Tu t'es laissé un peu arrêter parce que tu as passé par des épreuves. Et le Seigneur voudrait corriger cela dans ta vie et te dire, veux-tu, même au travers des épreuves, continuer de passer du temps avec moi, continuer de me servir, continuer, oh, continuer d'être un outil dans ma main. Alléluia, Seigneur. Veux-tu répondre à mon appel, te dit le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous voici pour te servir, ô grand roi, nous sommes bien peu de choses. C'est vrai, des instruments inutiles, mais cependant nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons que tu puisses te servir de nous. Nous voulons faire valoir nos talents, ceux que tu nous as donnés. Ô Seigneur, que rien ne puisse nous arrêter dans notre consécration pour toi. Jésus. Si quelqu'un veut prier, s'exprimer devant le Seigneur, répondre à son appel. Alléluia, Seigneur. Sentez-vous libre de vous exprimer devant le Seigneur. Jésus.
Nous te donnons la page blanche signée pour que tu puisses la remplir. Merci Seigneur. Permets-nous de travailler pour toi. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être ouvrier avec toi, ouvrière avec toi. Pas seulement dans nos familles, parmi nos amis, mais là où tu veux nous envoyer, auprès des personnes en détresse, auprès des personnes malheureuses. Il y a tant de foyers en difficulté, tant d'enfants qui souffrent, tant de souffrances dans ce monde. Et tu nous as dit d'être la lumière du monde. Alors nous nous mettons à ta disposition, Seigneur. Fais de nous ce que tu voudras. Envoie-nous où tu veux. Vous savez, le Seigneur veut vous dire qu'il n'attend pas de nous que nous ayons de grandes capacités. Mais par contre, il attend une grande disponibilité. C'est tout. C'est tout. Une grande obéissance. Ne nous contentons pas de nous satisfaire nous-mêmes, nos besoins, et de tourner autour de nos souffrances. Mais apprenons, malgré la souffrance que nous pouvons avoir dans notre vie, dans notre famille, nos soucis, à nous donner pour ceux pour lesquels le Seigneur veut que nous nous donnions. Ô Seigneur, nous voici pour ton service. Le Seigneur voudrait dire aussi qu'il y a une jeune fille ici qui a un appel particulier de la part du Seigneur. Il t'appelle, il veut te mettre à part pour lui, pour son service. Il a un plan très précis et très particulier pour toi. Et il attend que tu viennes à lui, que tu lui donnes ta vie entière et que tu dises, Seigneur, je dis oui. Ce soir, je dis oui à ton appel. Ce soir, je dis, je veux t'obéir, aller où tu voudras, quand tu voudras, comme tu voudras. Je te laisse le champ libre, je te donne ma vie pour ton service. Alléluia. Puisse cette jeune fille répondre à l'appel du Seigneur. Puisse-t-elle répondre, ô Seigneur. Nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, je me souviens le jour où tu m'as appelé à ton service. C'était dans une réunion la nuit, tout le monde priait. Il y avait juste un monsieur qui dirigeait la réunion. Et j'ai entendu ton appel. J'ai entendu ton appel. Je me suis levée, j'ai simplement dit oui, Seigneur. Et je me suis rassise en pleurant. Réalisant ce que je venais de faire, l'engagement que je venais de prendre. Mais tu m'as prise au mot. Tu m'as prise au mot, tu as entendu cette déclaration. Et ce soir, quelle que soit la décision que tu prends, la déclaration que tu fais au Seigneur, il l'entend. Vous savez, moi, ça fait déjà bientôt 40 ans que j'ai fait cette déclaration au Seigneur. Il ne l'a pas oublié. Hein? Si un soir, une journée, vous prenez une déclaration devant lui, je vous dis qu'il ne l'oublie pas, lui. Il ne vous laissera pas. Il reviendra à charge jusqu'à ce que vous obéissiez. Oui, merci Seigneur, parce que ce soir, il y a des décisions de prise dans les cœurs, Seigneur. Et je bénis ton nom pour le jour où j'ai dit oui. Simplement, oui, c'est tout ce que je pouvais dire à ce moment-là. Et tout le reste, Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Tout le reste. Comme quoi, une obéissance peut vous mener très loin. Vous en connaissez le départ, mais vous ne savez pas où elle vous conduit. Et moi, je vous assure que je suis émerveillée de voir tout ce que le Seigneur m'a permis de faire depuis que j'ai dit oui. Il a transformé ma vie, il m'a envoyée aux extrémités de la terre, il a fait tout et beaucoup de choses que je ne peux même pas mesurer. Je n'en connaîtrai l'ampleur que là-haut, parce que c'est lui qui l'a fait. Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Juste un oui à ce qu'il a mis dans ton cœur. Il ne faut pas chercher de grands ministères, il ne faut pas chercher de grandes choses. C'est juste se donner entièrement à lui. Juste ça. Avec la décision, je ne me laisserai pas arrêter par rien. Il faut être volontaire, il faut avoir de la volonté. Il faut être décidé avec le Seigneur.
et nous avons tous assez de volonté pour le faire. Pour ce que nous voulons, nous en avons bien de la volonté. Alors, pour le Seigneur, d'autant plus, n'est-ce pas? Il est digne que nous le suivions. Il est digne, il est digne, il est digne. Oh, si nos yeux pouvaient s'ouvrir et que nous voyions le privilège que nous avons à servir un roi et un seigneur comme lui. Quel privilège! Quelle gloire! Et combien nous nous sentons petits à son service. Mais c'est bien ainsi. Il faut qu'il en soit ainsi. Oh, merci Seigneur, de ce que pour toi, rien n'est trop petit. C'est par les choses faibles et les choses folles du monde que le Seigneur se glorifie. Il l'a dit. Donc plus nous nous sentirons petites devant le Seigneur, plus le Seigneur pourra nous utiliser. Alléluia. Alors, n'aie pas peur de te sentir toute petite, minuscule. Mais ce petit micro-cellule que tu es, devant lui, microscopique, le Seigneur veut l'utiliser, veut le bénir, veut l'envoyer et le multiplier, comme il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Si tu donnes tes 5 pains et tes 2 poissons, lui, il va nourrir une multitude avec ça. Alors donne-lui ce soir tes 5 pains et tes 2 poissons. C'est jamais assez pour nourrir tout le monde. Mais lui, il est le Dieu des miracles. C'est là qu'on voit qu'il est le Dieu des miracles. Et les miracles qu'il a fait dans les 5 pains et 2 poissons, il peut le faire au travers de ta petite personne qui peut multiplier à l'infini. C'est lui, le Dieu de l'infini qui multiplie à l'infini. Le Seigneur peut encore faire des merveilles. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Tu es le Dieu des miracles. Nul n'est comparable à toi. Et ce que tu as fait pour l'un, tu veux le faire pour l'autre. Et je te bénis parce que ce soir, tu as certainement parlé à plus d'une d'entre nous qu'elle ne puisse jamais oublier que tu attends d'elle un service. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu auras fait dans le secret des cœurs. Et je te loue, parce qu'à partir de cette soirée, je crois de tout mon cœur que les choses changeront pour certaines ici présentes et que moi, tu continues aussi de m'utiliser, de me conduire, de m'inspirer, de m'aider à te glorifier et que tout ce que nous faisons, nous puissions le faire uniquement pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. À lui la gloire, la puissance, le règne.